Paul Arcand reçoit le fils de feu Jacques Daou, qui a un parcours très intéressant, vous allez voir. L'histoire d'un jeune qui a troqué sa cravate pour devenir vigneron.
L'autre jour, on parlait des produits québécois de plus en plus populaires à la Société des alcools du Québec. On parle du vin, mais aussi des spiritueux. Et vraiment, c'est un marché en développement. Et on a pensé ce matin inviter le propriétaire des vignes de Bacchante situées à Hemingford. Sébastien Daou est avec nous. Monsieur Daou, bonjour.
Bon matin.
Et il faut dire que c'est avec votre père, l'ex-ministre Jacques Daou, aujourd'hui malheureusement décédé, que vous avez démarré ce vignoble-là. Ça vient d'où l'idée? Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans cette production?
Il y a deux questions à l'intérieur de ça. Pourquoi devenir entrepreneur? Parce qu'il faut toujours se rappeler qu'un vigneron, c'est pas un artiste, c'est un entrepreneur avant tout. Donc, pourquoi partir une entreprise? Puis par la suite, pourquoi décider de faire un vignoble? L'entreprise, c'est assez simple. Il y a 8 ans, ma fille est née à cette époque-là, et puis je l'avais dans mes bras un matin. On était revenu de l'hôpital, ma blonde a dit « là, je suis fatigué, il faut que j'aille me coucher ». Peux-tu t'occuper de Sophie, ma plus vieille? Je l'avais dans mes bras, puis je faisais ma feuille de temps avec ma souris dans l'autre main. Puis je m'imaginais lui expliquer qu'est-ce que je faisais dans la vie, qu'est-ce que je faisais comme travail. J'étais analyste d'affaires à cette époque-là. Puis j'avais aucune façon de lui présenter ça de façon intéressante. C'était d'un ennui profond qu'est-ce que je lui racontais. Puis à un moment donné, elle a même baillé. Fait que je me suis dit, mon Dieu, c'est vraiment ennuyeux ce que je suis en train de te raconter là. Puis je me disais, ayant connu mon père qui revenait à tous les soirs en train de raconter de façon passionnée son travail dans les banques au niveau des ressources humaines puis par la suite de la finance. Puis de pas être capable de communiquer ce même engouement-là pour mon travail à mes enfants, je trouvais ça difficile. Puis d'être encarcané à l'intérieur d'un cubicule gris à longueur de journée dans un étage générique à Montréal, je me voyais mal lui expliquer en quoi c'était intéressant, en quoi que ça pourrait être une inspiration pour elle. Alors, ça a été le début d'un long processus où j'ai regardé avec mes amis, ceux qui avaient un petit peu plus d'argent, ceux qui étaient prêts à se partir en entreprise. Puis c'est comme ça que, tranquillement pas vite, je me suis dit, il faut que je devienne entrepreneur, il faut que je me parte mon entreprise.
Et pourquoi le vin?
Le vin, parce que, pour la pire des raisons, on a été reçu chez un ami de la famille qui a un vignoble. Un soir de février dans son chai, un grand souper, puis j'ai commencé à lui parler justement de cette entreprise-là qu'il avait. Et c'était très intéressant. Naturellement, quand t'as un ou deux verres de vin dans le nez, c'est sûr que ça t'est encore plus intéressant. Donc, par la suite, on revenait en voiture, puis je parlais avec ma conjointe, je lui ai dit, tu sais, les problèmes auxquels il fait face, ce vigneron-là, parce qu'il me parlait des problèmes auxquels il faisait face, sont très intéressants, sont relativement faciles à régler pour une personne comme moi, dont le rôle était de régler des problèmes opérationnels dans des entreprises. Je suis pas un grand stratégiste ou quoi que ce soit, je réglais des problèmes opérationnels. Je dis, c'est des problèmes relativement simples à régler. C'est une question de maturité puis d'amener bon sens à certains niveaux. Alors j'ai commencé le processus, si on veut, avec à regarder avec mon père s'il était intéressé d'investir là-dedans. C'est un banquier, il m'a demandé un plan d'affaires puis naturellement des chiffres puis qu'est-ce que je voyais comme vente puis bon toutes ces choses-là. Puis en regardant ça froidement, il a dit je pense que ça pourrait être intéressant. Et c'est là où on a commencé à regarder s'il y avait des vignobles qui étaient à vendre puis par la suite si on partait notre propre vignoble, qu'est-ce que ça donnerait. Puis depuis 2012, donc, on a parti notre propre vignoble.
C'est pas simple. C'est pas une production là qui donne des résultats rapidement.
Non.
C'est un peu, je vais dire jusqu'à un certain point, contre nature de produire du vin au Québec. Là.
Oui.
Quels ont été les principaux problèmes que vous avez eus au départ, là, auxquels vous avez été confrontés?
Le premier problème qu'on a eu, c'est planter 40 000 vignes, parce qu'on a planté 40 000 vignes en une année ou une année et demie, si on veut. Planter 40 000 vignes, c'est relativement facile. C'est des rangées bien droites quand on a la bonne personne pour les planter puis qui nous aide avec ça. C'est relativement facile. Les entretenir, surtout dans sa phase de croissance, dans ses 3, 4, 5 premières années, je suis encore dans une partie qui est compliquée, les faire pousser tout en même temps. Quand on a juste 2000 vignes, c'est facile pendant 2 semaines les entretenir correctement au stade où ils sont rendus, par exemple. Là, ils ont à veille de faire des fleurs présentement. Donc, à ce stade-ci, il y a des choses qu'il faut faire. En 2 semaines, on est capable de les faire si on a 2000 vignes. Mais on a le même 2 semaines si on a 40 000, par contre. Alors, c'était ça qui était compliqué. Pour une personne qui est habituée comme moi de faire de la gestion de projet en entreprise, là, on se bat contre la température, on se bat contre le temps, puis on se bat contre le fait qu'il y a plus, puis on peut pas rentrer avec des tracteurs puis les entretenir. Et juste cette partie-là était extrêmement compliquée à faire. De voir toute ma famille à 4 pattes dans le champ plein d'arracher des mauvaises herbes un samedi matin, on s'est dit, on n'est pas en train de faire ça de la bonne façon. Donc, ça a fait partie justement des gros challenges qu'on a eus.
Mais ça doit tout le temps être un jeu d'essais-erreurs, c'est-à-dire que...
Il y a beaucoup d'essais-erreurs, vous avez raison, sauf que d'un autre côté, on vit aussi beaucoup de l'expérience des autres vignerons qu'il y a eu. Que ce soit, dans mon cas, j'ai 2-3 coachs. Le domaine Saint-Jacques avec Yvan Quirion, l'Orpaillère avec Charles-Henri de Coussergue. Puis j'ai même Normand Guénette, mon voisin de Chaboté, qui me donne des coups de main, qui me disent « Fais attention à telle chose ». Et puis, j'avais aussi un coach agriculteur au tout début, pour juste savoir comment acheter un tracteur. C'est pas quelque chose de naturel pour un gars de banlieue comme moi. Puis, on a aussi des agronomes indépendants qui font pas partie de, naturellement, un vendeur de produits, de pesticides ou quoi que ce soit, qui nous coachent à l'intérieur de ça. Naturellement, ils disent toutes des fois des choses un peu contraires, puis c'est là où ta job d'entrepreneur est de comprendre la décision à prendre à ce moment-là. Mais on est bien entouré si on ose poser les questions à gauche puis à droite.
Et comment on décide qu'on va produire tel type de vin, le ratio qu'on va faire, les blancs, les rouges, comment on prend ces décisions-là?
Dans notre cas, on l'a pris un peu comme... comme on prendrait une décision d'investissement sur un fonds mutuel ou quelque chose de genre. Donc, on s'est dit, si ça va mal, notre affaire, si notre vin n'est pas buvable, on va planter des raisins pour lesquels on sait qu'il y a un marché secondaire. Parce qu'il y a un marché secondaire du raisin pour faire du vin au Québec. Les gros producteurs de vin cherchent toujours des bonnes sources d'approvisionnement en raisin le temps de faire pousser leur propre vigne sur une période d'à peu près 5 ans. Donc, on a tout simplement pris les plus grands vignobles au Québec. On a vu qu'est-ce qu'eux autres ont planté. On en a parlé avec un agronome indépendant, puis il nous a dit, ça c'est un bon choix, ça c'est un mauvais choix, etc., etc. Par la suite, c'est une question de regarder avec son œnologue, on n'en avait pas à l'époque, mais c'est une question de regarder avec un œnologue qui lui va dire, tel raisin, ça sent bien ensemble, tu peux t'essayer à faire un vin avec celui-là. Puis celui-là, en monocépage, il est intéressant. Donc, c'est vraiment de faire une bonne gestion de portefeuille. Il y a des choses qui ont aucun rendement, mais qui vont quand même générer un certain revenu, comme la vente de raisins. Puis il y a des assemblages qui deviennent intéressants. Fait que c'est pour ça qu'on arrive avec des choses méconnues comme le Marquette, mais de l'autre côté, on a aussi du Pinot Noir dans le champ. Donc, on a vraiment une variété intéressante qui chacun est supposé donner un profil différent.
Notre invité ce matin, Sébastien Daou, donc propriétaire des vignes de Bacchante, c'est à Hemmingford. On parlait tantôt avant d'amorcer en nom de l'entrevue du cas de Francis Ford Coppola, qui est propriétaire quand même maintenant d'un immense domaine et qui racontait qu'à ses débuts, c'était l'enfer, que les premiers vins étaient imbuvables, qu'il a perdu de la production alors qu'il pensait que ce serait facile, qu'il était obligé de changer de main de viticulteur. Ça prend combien d'années avant de pouvoir établir là donc la qualité de ses premiers vins?
La baronne philippine de Rothschild disait à l'époque que la vigne, c'était pas compliqué, c'était juste les 200 premières années qui étaient longues. Mais la réalité, c'est que je dirais que à la troisième année après avoir planté de la vigne, on va commencer à avoir un certain rendement sur nos vignes. Puis après 5 ans, on commence à avoir une certaine maturité sur la vigne. Après 10 ans, théoriquement, on commence à être mature dans notre chai, donc dans la partie où on fait la transformation de notre vin. On commence à avoir une certaine maturité de ce côté-là. Fait que d'après moi, après 20 ans, je devrais être pas pire de ce côté-là.
C'est décourageant ou pas?
Non, du tout, parce que c'est un beau projet à long terme. On sait où c'est qu'on s'en va. Contrairement à, comme je disais, mon expérience passée j'ai fait 4300 PowerPoint en 15 ans, puis on ne sait toujours pas qu'est-ce que ça va donner, tous ces PowerPoints-là. Là, au moins, on sait que à terme, ça va donner des vins de haute qualité, parce qu'on n'a pas le choix de faire des vins de haute qualité au Québec. On est en compétition contre les vins français, contre les vins italiens, contre les vins américains, puis tout ça. Ce qui n'est pas le propre d'être aux États-Unis, t'es pas en compétition contre des vins québécois ou contre des vins chiliens ou argentins ou peu importe. Donc, au Québec, on est unique parce qu'on a des vins de partout à travers le monde à la SAQ. Et donc, on doit augmenter notre niveau de qualité tout le temps. Je suis très content parce que même dans ma première cuvée, j'ai des résultats qui sont très intéressants. Donc c'est pas décourageant parce qu'on s'améliore toujours un petit peu à chaque
Mais
année.
Mais de pouvoir permettre à des vins du Québec de percer le marché, compte tenu que c'était un monopole, là, ça n'a pas été simple. Au début, il y avait quand même beaucoup de réticence. Depuis quelques années, là, on sent que ça s'est ouvert. On parle du vin puis des spiritueux aussi.
Exactement. Je pense que c'est deux lignes un peu différentes. Les spiritueux, ils ont leur propre challenge. Le vin, il faut avoir beaucoup d'admiration pour les pionniers du vin. Je parlais de l'Orpaillère tout à l'heure. Il y en a quelques autres aussi qui se sont littéralement battus pour avoir le droit de commencer à vendre ailleurs que dans leur propre magasin, dans des quantités intéressantes. Ça a été extrêmement difficile. Parler à ces gens-là, c'est très, très, très instructif. Ça. C'était quoi la vision qu'on avait dans les années 70 puis 80 du vin au Québec? Mais les fromagers aussi ont eu à se battre de la même façon. Puis regardez où c'est qu'on est rendu au niveau des fromages maintenant. On espère, au niveau du vin, de pouvoir se rendre à ce même niveau-là. Puis je dirais qu'il y a des vins qu'on a présentement qui sont vraiment intéressants.
Mais cette résistance à l'époque, on l'explique comment?
On l'explique comment? Naturellement, j'étais bien jeune à cette époque-là. Mais je pense qu'il y avait... on voulait pas se ramasser avec un paquet de personnes qui, dans leur sous-sol, faisaient de la piquette. En gros, là, ça ressemble probablement à ça. Puis il y avait aussi un certain tabou au niveau d'alcool. Quand mes parents étaient jeunes, la régie des liqueurs, il y avait une personne qui était en arrière d'un grillage, puis t'allais chercher ton vin là, il fallait que tu chuchotes. C'était un vétéran souvent qui était en arrière là, du grillage, puis là tu disais, j'aimerais ça avoir un peu de vin. Puis là, ouais, ok, c'est correct. Puis là, la rumeur dans le village, c'est que tu buvais du vin, c'était dangereux, puis tout ça. Fait que je pense qu'on voulait éviter d'avoir une perte de contrôle là-dessus. Mais ça a créé un paquet de lois qui, encore aujourd'hui, sont existantes, puis qui ont peut-être moins raison d'être. Donc, on se bat encore pour que les règles deviennent un peu plus flexibles, sans non plus tomber dans le Far West complètement. Et puis, c'est un travail de longue haleine pour permettre ça, puis trouver un peu l'équilibre entre faire la promotion des vins du Québec, mais aussi d'ouvrir les marchés en général.
Est-ce que vous allez voir d'autres vignobles dans le monde pour voir comment ça se passe?
J'ai pas le temps.
Vous avez pas le temps?
Non, j'ai pas le temps. Je pensais justement que j'aurais le temps d'aller visiter ça, pis ça. Mais il y a deux choses qui arrivent un peu en même temps. C'est que d'une part, je suis allé voir en Ontario. Ça, oui, parce que c'est le plus proche qu'on a, si on veut, de qu'est-ce que ça pourrait avoir à l'air, si on veut. Les gros investissements qui ont été faits dans la vallée du Niagara, notamment. C'est très intéressant de voir ça. Non, j'ai pas le temps. J'ai aucune fin de semaine à moi. Auparavant, j'avais deux travails. Mon travail la semaine, puis le soir et les week-ends, ben, on était au vignoble. On faisait ce qu'on avait à faire. Quand mon père nous a quittés, là, à ce moment-là, il a fallu que je le reprenne à temps plein. Donc, à temps plein, ben, encore une fois, on travaille pour deux, naturellement. Donc, j'ai pas le temps les fins de semaine. Puis, ben, franchement, je me paye plus de salaire. De toute façon, j'ai aucune scène pour voyager présentement. Fait qu'on fera pas ça là, non.
C'est pas payant. Ça prend du temps avant de pouvoir dire que c'est rentable.
C'est la raison pour laquelle on a planté autant de vignes que ça. C'était très casse-cou de le faire. Mais c'est qu'à compter de 35 000 vignes environ, c'est supposé de devenir rentable. Bon, j'ai pas un problème d'investissement en ce moment. Théoriquement, ça devrait pouvoir être rentable si je peux juste vendre. Ça a l'air niaiseux quand je le dis comme ça. Mais je vends du raisin. La moitié de mes raisins sont vendus à d'autres vignerons. Dans mes cuves que j'ai achetées, j'ai encore de l'espace pour en mettre du raisin. Mes vignes produisent sans bon sens. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Puis même dans mon champ, j'ai des parties de terrain qui sont drainées sur lesquelles je peux commencer déjà à planter d'autres vignes. Donc, j'ai pas un problème de capital, si on veut, d'investissement. C'est juste une question de mettre les efforts pour la vente présentement. Puis à ce moment-là, ça devrait devenir rentable. Je ne dis pas que je vais me payer des salaires comme j'ai gagné auparavant. Je pense pas que ça va être le cas. Par contre, je vais être beaucoup plus heureux à faire ce que je fais.
En terminant, qu'est-ce que vous dites aux gens qui ont peut-être encore ces préjugés au sujet du vin québécois en disant ben là, ça se peut pas qu'on produise des vins de qualité au Québec?
Bien, on commence à produire des pinots noirs. Fait que je mets au défi de goûter les quelques pinots noirs qu'on a, puis par la suite d'explorer un peu qu'est-ce qu'on fait. J'ai un monocépage en Marquette dans mes produits présentement. Marquette, qui est une vigne d'ici, ça goûte un peu le gamay. C'est intéressant, le gamay, pour les gens qui aiment le vin rouge d'été. Donc, il y a quelque chose d'intéressant. On est très dur envers nous-mêmes, je pense, au Québec. Le nombre de personnes qui me disent « J'ai goûté une bouteille de vin rouge du Québec à un moment donné, puis j'ai pas aimé ça, c'était trop amer. » Mais c'est drôle, j'ai déjà goûté un vin français qui était pas bon. Puis ça m'a pas empêché d'en acheter d'autres. Je continue d'explorer qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui se fait. Puis d'une année à l'autre au Québec, la connaissance qu'on a de nos raisins a grandi d'année en année. Et le vin rouge moyen qu'on avait il y a 5 ans goûte plus du tout la même chose aujourd'hui. Donc, on améliore nos procédés. Nos œnologues en apprennent beaucoup sur nos vins. Puis je dirais que dans les vins rouges, présentement, là, on a des choses bien intéressantes. Dans les blancs, on était déjà là. On était déjà avec des vins.
Je pense que les blancs se sont établis en premier de façon plus solide que les rouges.
Exactement, parce qu'ils sont plus faciles à travailler en cuve, je pense un peu. Ils donnent, on est capable d'aller chercher des saveurs, des goûts, des senteurs qui sont particulières. Le vin rouge, c'est un autre mécanisme. Il faut le travailler un petit peu plus sur la vigne, un peu moins dans la cuve. Donc, c'est un procédé qui est un petit peu différent de ce côté-là.
Monsieur Daou, merci beaucoup d'être venu ce matin.
Merci bien.
Sébastien Daou, qui est le propriétaire, évidemment, des vignes des Bacchantes. C'est à Hemmingford.
Restez là, parce qu'on reçoit la très excentrique Anne-Marie Lozic dans un moment à Sur Demande.